passer dans notre tombe pour refaire la barrière.
Plus un seul rivage au débarqué, sans que tout au bout du quai, les pêcheurs nous reconnaissent. Le bout du monde, on l'a découvert, et jusqu'au fond de la mer.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Mitieu.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître. Et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec aujourd'hui au programme un seul invité, mais un invité qui est passionnant puisqu'il va nous parler de l'odorat. Il s'agit de Irak Gurden que nous recevons à propos d'un ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'intitule Sentir ou comment les odeurs agissent sur notre cerveau. Alors, ce livre est absolument passionnant parce que c'est vrai que l'odorat est un sens un petit peu malmené à notre époque. On lui accorde assez peu d'importance. Enfin, c'est pas celui qui prédomine. Et pourtant, il ne sert pas uniquement à renifler les parfums. Il sert également à manger. Il sert à beaucoup de choses. Et Irak Gurden, dans cet ouvrage, aborde ces différents points. Alors, nous allons le retrouver tout de suite pour nous parler de tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur l'odorat sans jamais oser le demander. On va l'apprendre avec lui. Irak Gurden, sentir comment les odeurs agissent sur notre cerveau. C'est paru aux éditions Les Arènes. C'est donc toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de pouvoir poser plein de questions à Irak Gurden à propos de son ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'intitule « Sentir », avec comme sous-titre « Comment les odeurs agissent sur notre cerveau ». Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, je dois vous le dire, et puis la question des odeurs est quelque chose qui me fascine. depuis toujours, parce que je trouve qu'on les néglige un peu, les odeurs. On parle de beaucoup de choses, on parle de la vue, de la musique, enfin de l'ouïe, mais on a tendance à mépriser un peu les odeurs et ou alors à les standardiser. Et je trouve ça dommage parce que on n'apprend pas aux enfants à reconnaître les odeurs, à travailler avec les odeurs, à se faire plaisir avec les odeurs, alors que c'est quand même extrêmement important. Donc je suis très contente que ce livre existe. Mais pour en parler, on va commencer par un détail qui, pour moi, est une évidence, Irak Gurden, c'est que vous commencez le livre et vous le terminez avec les odeurs de la nature, d'une plage à l'autre. Et je crois que ça situe bien, justement, la question de la place de notre odorat, parce qu'on ramène des photos de vacances, mais jamais on ira décrire notre souvenir de vacances avec des odeurs. Et pourtant...
Et pourtant, notre lien, effectivement, à la nature, depuis que nous sommes humains, mais même avant, puisque ça existe chez tous les mammifères, donc de tous nos ancêtres communs mammifères, le lien, il est très fortement olfactif, notamment pour les animaux nocturnes qui doivent se déplacer dans la nuit, mais aussi pour les animaux diurnes de la journée comme nous, même si nous sommes visuels, en fait, nous prenons des informations constamment de la nature par rapport à notre odorat. La preuve en est, par image un peu négative, que les personnes qui perdent l'odorat, qu'on appelle des anosmiques ou des hyposmiques, des gens qui ont des troubles olfactifs, en fait, qui ont des problèmes olfactifs, vous disent qu'ils perdent ce lien. Et aussi qu'ils perdent aussi une certaine chronologie en fait des saisons et du lien avec la nature. Donc notre odorat nous prévient très bien que le printemps arrive, que les odeurs changent, que la nature renaît. Et ça a aussi bien sûr des implications sur notre humeur, sur notre état d'esprit et aussi sur nos échanges avec la famille et les amis. C'est-à-dire qu'on aime quand même si c'est pas le premier souvenir dont on va parler, le souvenir olfactif, petit à petit, il va perdre sa place et on va quand même se souvenir de cette heure iodée ou du barbecue qu'on a fait sur la plage ou etc., etc. Donc du coup, la panoplie olfactive, elle est extrêmement variée, extrêmement large. Elle est toujours là de façon assez inconsciente, mais il suffit d'y faire attention pour que ça ressurgisse et que on ait plein de Madeleine de Proust olfactive qui s'installe et qui nous donne envie de partager, parce que ça aussi c'est un sens très social qui donne envie de dire aux autres, mais moi j'aime ce parfum, ou j'aime l'odeur de cette fleur, ou j'aime ce plat, et qu'est-ce que toi tu en penses? Et c'est ça qui est intéressant pour un être humain, c'est de savoir ce que l'autre pense.
Oui, c'est tellement un moyen d'échange, c'est très très important. Mais avant d'aborder les différents rôles de l'odorat, ce qui est intéressant, parce que vous l'évoquez, Irak Gurden, c'est le fait qu'on dit « ça sent bon, ça sent mauvais ». J'aime ou j'aime pas, ça sent la fleur ou ça sent le pain au chocolat, mais on n'a pas beaucoup de mots au niveau lexical. Dans nos civilisations occidentales, on est assez pauvre pour décrire les odeurs. Et j'ai appris en lisant votre livre qu'on était un peu des handicapés sur ce domaine, puisqu'il y a des tribus autres qui, elles, ont un vocabulaire beaucoup plus riche et sont beaucoup plus adaptées pour décrire les odeurs. Nous, on est vraiment limités.
Oui, on en revient justement à ce contact avec la nature dont on a commencé à parler, Alexandrine. C'est que, effectivement, des peuples de chasseurs-cueilleurs, notamment, qui existent encore sur Terre, heureusement, ont été étudiés et on sait, en fait, on connaît leur richesse de vocabulaire pour qualifier la faune, la flore, leur odeur corporelle aussi entre eux, mais aussi entre peuples de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire ils connaissent l'odeur des autres tribus qui sont sur un territoire qu'ils partagent, etc. Donc on voit que ce lien à la nature, effectivement, il est fort, il est en fait là, il existe dans le langage de ces personnes. Chez nous, on en revient à votre première question. Du fait, en fait, de cette négligence, de cette mise à l'écart de notre odorat, d'un côté par les philosophes qui sont toujours méfiés de l'odorat comme étant un sens de l'émotion qui peut affecter l'intellect, de l'autre côté par des médecins, surtout de l'Antiquité grecque, qui ont pensé que les miasmes étaient liés, en fait, aux odeurs fétides qui étaient dégagées notamment par des corps en décomposition. On s'est toujours méfié des odeurs comme étant des potentiel danger, danger pour la santé, à la fois physique et psychologique. Or, il se trouve que dans un milieu beaucoup plus enrichi, loin de nos structures urbaines qui sont d'ailleurs très toxiques pour notre muqueuse olfactive, pour notre nez, on voit que l'être humain, en fait, a développé des systèmes de communication olfactive à travers son langage qui sont extrêmement évolués.
Alors, on va aborder, on reviendra sur ces précisions parce que c'est vrai que il y a eu ce courant qui a tendance à dire que l'odorat c'est lié à l'animalité et que la verticalisation de l'homme a fait qu'il s'est éloigné des odeurs et que l'évolution c'est d'aller laisser tomber notre nez. Mais avant de revenir peut-être sur ce point, Ira Gurden, dans Sentir, paru aux éditions Les Arènes, vous évoquez tous les rôles de l'odorat et vous utilisez l'expression bah, « c'est un peu les 5 S ». Alors, les 5 S, ça m'a fait sourire, mais ça correspond tout à fait, effectivement, à ce à quoi nous sert notre nez. Ça va effectivement de la spiritualité, la sécurité, etc., etc. Vous déclinez comme ça, c'est vraiment partout l'odorat.
Ah, c'est vraiment partout. C'est le premier en fait des sens de tous les mammifères, donc aussi d'Homo sapiens. C'est le premier dans le sens du développement, c'est-à-dire que le troisième trimestre d'âge intra-utérin, donc à l'âge fœtal, nous avons un système olfactif très développé et qui va même nous permettre d'avoir des mémoires en tant que fœtus, en fait, puisqu'on peut sentir les odeurs qui sont dans le liquide amniotique de notre maman et que ces odeurs-là vont être enregistrées dans le cerveau du fœtus, donc de chacun d'entre nous, hein, nous avons tous vécu ça, même si on s'en souvient plus, évidemment. Et à la naissance, nous avons déjà des préférences olfactives qui vont bien sûr se développer ensuite avec le temps, la famille, le milieu scolaire, les amis, etc. Donc déjà, de base, ça ne peut pas être un sens mineur et ça ne peut pas être un sens à négliger puisque c'est un des tout premiers sens qui arrive en fait à être fonctionnel dans le cerveau de l'être humain et qui l'aide finalement à la naissance. Je rappelle que les 4 premiers mois de la vie d'un nouveau-né, il voit très très mal, il voit quasiment rien, et que c'est un être, et il entend, il y a plein de sons qu'il n'entend pas, et c'est un être qui est très très olfactif, et que le lien entre le petit nouveau-né et sa maman, il est totalement olfactif. Et donc du coup, encore une fois, ça montre que ce sens de l'odorat, il ne peut pas être négligé, il ne peut pas être mis de côté, quoi qu'en disent les philosophes d'il y a quelques siècles, ou voire Freud et la psychanalyse. Voilà, donc... ça, c'est vraiment un élément à considérer. Et j'ai utilisé les 5 S, effectivement, pour avoir un moyen mnémotechnique, parce que dans l'histoire de l'humanité, en fait, les parfums et la communication, la spiritualité avec les esprits et les divinités, ça a toujours été aussi fait via les odeurs. Et donc, même les chamans, hein, très, très anciens, donc, dans l'histoire de l'humanité, utilisent évidemment des plantes dans leur cérémonie de purification ou de communication avec les esprits. Donc, on voit toujours ce côté du perfumum aussi, qui est à la base du mot parfum, c'est-à-dire par la fumée. Et ça a toujours fasciné les êtres humains parce que les odeurs sont invisibles et pourtant, elles nous évoquent et nous provoquent des émotions et des souvenirs extrêmement fort. Donc du coup, toutes les religions, qu'elles soient polythéistes ou monothéistes, le christianisme, l'islam, ont toujours donné une importance extrêmement forte en fait aux odeurs et à l'odorat. Et puis j'ai décliné évidemment sur la santé. On sait même aujourd'hui, hein, les huiles essentielles, il y a des bienfaits. Alors c'est pas toujours avéré. Il y a des recettes de grand-mère qui marchent et d'autres qui marchent pas, mais il y en a qui marchent vraiment. Donc du coup, il y a un pouvoir sur la santé des odeurs qui n'est pas négligeable. Et dans des cas de dépression, on utilise aussi en olfactothérapie toute une panoplie en fait d'odeurs pour aider les personnes à retrouver une humeur, une joie de vivre qui puisse vraiment leur faire du bien. J'ai décliné bien sûr sur la saveur, Alexandrine, parce que tout ce qui est goût est attaché aussi à l'odorat. Pour le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui est entier. L'odorat et le goût, ça va ensemble. Et si on perd l'odorat, justement, quand on a un rhume pendant l'hiver, on sent que la soupe, elle a pas tout à fait le même goût que d'habitude. Et ça nous montre effectivement que odorat et gustation sont fortement liés. Donc voilà, c'était ces déclinaisons pour nous montrer effectivement que autour de nous, il y a toute cette richesse olfactive, que nous sommes pourvus d'un système olfactif qui est extrêmement développé et que la science et la biologie et les neurosciences dans les 20 ou 30 dernières années ont montré en fait toute cette richesse et que j'ai adressé vraiment le livre au plus grand nombre de façon le plus didactique possible pour montrer toutes les possibilités et les capacités olfactives que nous avons et que dont nous pouvons jouir en fait. C'est vraiment le sens aussi du plaisir qu'on doit développer dès la petite enfance, comme vous l'avez dit, mais aussi tout au cours de notre vie.
Oui, du plaisir et de l'émotion.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. Que des médailles d'impérators font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
On reviendra sur le goût parce que c'est un chapitre important et qui, moi, m'a passionné parce que vous avez cette approche triple, on détaillera tout à l'heure, qui est effectivement le goût, l'odorat et la stimulation trigéminale. Mais pour revenir sur l'odorat, Ira Gurden, donc ce qu'on découvre également avec Sentir, paru aux éditions Les Arènes, c'est les mécanismes qui sont mis en œuvre pour qu'on puisse sentir une odeur. Parce que on sait pas, on dit ah ouais tiens on sent ça, mais en fait c'est un système extrêmement complexe et extrêmement génial. Je trouve que c'est déjà le fait que ça soit avec la respiration, que ça soit un système discontinu, cyclique, avec des récepteurs qui sont infimes mais qui sont suffisants et le traitement cérébral ensuite de l'information, c'est génial.
Oui, c'est vrai que la construction du système olfactif, alors c'est arrivé aussi avec l'évolution. Hein. Ça nous a quand même pris quelques millions d'années au niveau des constructions du système sensoriel. Effectivement, encore une fois, Alexandrine, on voit dans le parcours que vous venez de citer, vous avez très bien résumé, en fait, encore une fois, que c'est, l'odorat, c'est un sens qui est majeur, parce que nous sommes pourvus, effectivement, de 400 familles de micro-détecteurs que l'on appelle des récepteurs olfactifs, donc ça se trouve tout au fond de notre nez, donc 400 types différents, c'est pas rien du tout, puisque pour la vision, nous avons que 3 types de récepteurs, je ne vais pas les détailler, mais bon, c'est pour vous faire un rapport, c'est 400 types de récepteurs olfactifs et 3 types de récepteurs visuels, donc on voit bien qu'on est extrêmement bien équipé. En plus, on a 10 millions de neurones olfactifs qui sont les cellules qui portent ces fameux micro-détecteurs, donc voilà, on est paré, au fond de notre nez, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir détecter et profiter de cette vie olfactive qui nous entoure. Et puis après, quand on remonte dans le cerveau, là, on voit des millions et des millions de neurones qui vont être sollicités, excités, stimulés par les odeurs, et on va avoir comme un feu d'artifice de plein de structures différentes, très complémentaires d'ailleurs, qui vont fabriquer des cartes d'identité olfactives, qui vont mettre une étiquette de plaisir, d'émotion, de souvenir, jusqu'à aller effectivement jusqu'à l'identification. Même si on est faible, bah, quand on sent une rose, on sait que c'est une rose quand même. Donc ça veut dire que tous ces circuits, tous ces neurones en fait, se synchronisent, travaillent ensemble pour nous diriger et nous permettre, encore une fois, à la fin de la fin, de pouvoir échanger en fait avec notre entourage sur le plaisir de sentir les odeurs.
Alors, ce qui est assez génial quand même, c'est que vous prenez l'exemple de la rose Irak, c'est que une rose, on la sent, on se dit c'est une rose, et pourtant elle n'a pas le même parfum que sa voisine, elle n'a pas le même parfum qu'un bouquet de roses, et pourtant notre cerveau va réussir à identifier. Et à partir du moment où on évoquait le fait que au niveau de l'appareil nasal, il y avait des récepteurs qui allaient identifier les différents constituants de l'odeur de la rose, et ben voilà, ça va se faire, ça va aller se fixer. Il y a un système de fixation, de déclenchement d'un influx nerveux suivant les différents constituants qui vont être dans cette fleur. Mais là où c'est génial, c'est qu'il y a aussi ce niveau d'intégration qui est le niveau qui se fait au niveau du cerveau, c'est-à-dire que ces signaux en disant « j'ai identifié du géraniol, du limonène, etc., tous les constituants des odeurs », voilà, c'est présent. Et ensuite, il y a cette cartographie que vous évoquez qui fait qu'au final, je sens que c'est une rose.
Oui, alors ça, c'est vraiment le job du cerveau. Le cerveau, il fait ça avec tous les sens, c'est-à-dire que le monde qui nous entoure est constitué de millions de stimuli différents. Vraiment, il y a plein de sources d'informations différentes autour de nous et les 5 sens sont constamment stimulés. Or, pour les odeurs, il se trouve effectivement que ce sont des objets sensoriel très compliqué. Par exemple, le café du matin, quand on chauffe le café du matin, il y a 1000 molécules odorantes différentes. Donc, il faut prendre l'ensemble de ces 1000 molécules odorantes et en faire quelque chose pour qu'à la fin, on arrive quand même à unifier cette image et dire « c'est du café » pour que, toujours dans la communication, la personne qui est à côté de moi, quand je lui dis « tiens, ça sent bon le café », elle puisse se dire « bah oui, il parle de ce breuvage noir du matin qui sent bon, que j'aime bien ou alors que j'aime pas ». Donc, c'est le début de la communication. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut faire une construction, en fait, il faut construire cette image comme un puzzle. Donc, on a les 1000 molécules odorantes de café, on doit les détecter, on doit faire des cartes d'identité de chacune de ces molécules, et à la fin, on réunit le tout pour faire une tasse de café qui ressemble à quelque chose et qui ne soit pas renversée sur la table et qu'on en ait partout. Et ça, le cerveau, il est vraiment spécialiste pour ça, les neurones et les synapses, qui sont les endroits où les neurones discutent, font ça, c'est-à-dire ils unifient et ils essaient d'homogénéiser et d'harmoniser en fait l'ensemble de ces milliers de stimulations qui nous entourent pour pouvoir en faire quelque chose de malléable, d'échangeable en fait, et d'arriver à un vocabulaire qui soit cohérent et qui veuille dire quelque chose pour les autres.
Et puis, une fois qu'on a senti l'odeur de la rose et l'odeur du café, il y a l'émotion que ça suscite. Et ça, c'est aussi important parce que c'est peut-être spécifique aussi de l'odorat, c'est le lien direct avec les émotions. L'olfaction a une configuration particulière par rapport à l'émotion et à la mémoire, au souvenir.
Oui, on voit très très bien déjà au niveau anatomique, c'est-à-dire au niveau de la construction du cerveau, quand on regarde avec une, par exemple une machine d'IRM, donc on fait de l'imagerie cérébrale, on voit que le système olfactif est complètement enchâssé en fait dans les systèmes d'émotion et de mémoire qu'on appelle dans le langage neuroscientifique le système limbique. Et en fait, on voit effectivement que ce lien extrêmement fort au niveau anatomique se traduit aussi par une activation, une stimulation très très forte à l'imagerie. On voit vraiment comme ça surgir des activités très intenses de neurones dans ces régions des mémoires et des émotions. Et en fait, on voit que le cerveau est toujours à la recherche de est-ce que j'ai déjà rencontré cette odeur ? Est-ce que elle appartient, cette odeur, à une catégorie que je connais ? Est-ce que c'est un fruit ? Est-ce que c'est une épice ? Est-ce que c'est un parfum que je connais ? Et donc, il y a toujours en fait cette activité, cette curiosité aussi, hein, cette attractivité des odeurs, pour savoir effectivement à quelle odeur j'ai affaire et en même temps, bien sûr, de savoir si cette odeur-là, elle me plaît ou elle ne me plaît pas. Est-ce qu'elle me procure une joie ? Dans ces cas-là, je peux même aller jusqu'au sourire, qui est une fonction positive chez l'être humain. On peut même sourire sans parler et l'autre être humain qui est en face va savoir qu'il y a un très grand effet de plaisir. Ou alors, j'ai un dégoût parce qu'il y a des odeurs qui nous dégoûtent, qu'on a rencontrées dans des cas très précis, ou alors des odeurs aussi souffrées, d'œufs pourris par exemple, qui sont aussi très désagréables. Et là, mon visage va complètement se transformer et je vais avoir vraiment un air dégoûté et les personnes autour de moi vont reconnaître ce dégoût sans même pouvoir en parler. Donc, il y a aussi tout ce côté à la base non-verbal qui est extrêmement puissant. Et puis ensuite, il y a une traduction quand même verbale où je vais m'exprimer, où je vais dire effectivement j'aime, j'aime pas, ça me rappelle telle molécule. Mais effectivement, on va être assez limité. Donc, il va falloir quand même chacun d'entre nous à faire un effort pour trouver un vocabulaire un peu plus riche, aller chercher dans les autres sens, notamment on dit c'est une odeur verte, c'est une odeur ronde, etc. Donc c'est absolument pas des qualificatifs olfactifs, mais ça nous permet quand même d'échanger et de faire des efforts en tout cas pour aller dans ce sens. Et il y a des associations par exemple comme Nez en Herbe qui travaille à l'école en fait pour cet éveil olfactif dès la maternelle, pour que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, cette stimulation olfactive et cet intérêt olfactif s'installe dès l'enfance et qu'on ne perde pas en fait cet intérêt, parce que si on regarde bien le comportement des enfants, ils sont de base hyper curieux par rapport aux odeurs, mais petit à petit, pour des raisons d'hygiène, pour des raisons d'écran, etc., on abandonne ce sens alors qu'il est potentiellement exploitable à tout instant puisqu'il est très fonctionnel chez l'être humain.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pensais également à un lieu comme l'Osmothèque qui est intéressant de découvrir, qu'il faut y aller quand on a l'occasion d'y aller. Et je revenais sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait que quand on sourit, on envoie un message à quelqu'un et que cette émotion qu'on ressent avec une odeur, des fois on peut pas la faire partager par les mots, mais on le fait par notre visage. Et puis bon, vous arrivez assez bien à le faire parce que je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous dire que ce week-end, j'ai fait du riz au lait au four. Parce qu'effectivement, vous m'avez fait rêver et ça a réveillé en moi cette odeur-là aussi, qui est sans doute pas la même que la vôtre, mais en tout cas qui est associée à une émotion précise.
Oui, il y a cette, justement, ce partage, il est quand même incroyable avec Sandrine. C'est-à-dire que c'est très universel. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à aimer ce riz au lait. Alors moi, j'en parle dans le livre comme un exemple de ma Madeleine de Proust, oui, qui est un riz au lait. Parce que quand j'étais petit, je suis d'une famille arménienne, je suis né à Istanbul. Quand j'étais petit, effectivement, ma mère, mes tantes, ma grand-mère, elles faisaient toutes du riz au lait et qui était vraiment, au niveau olfactif, extrêmement attrayant pour moi parce que ça prédisait déjà du bon goût que j'allais avoir en bouche. Et en fait, voilà, c'est universel. C'est-à-dire qu'on partage quand même une image de ce riz au lait entre vous et moi, mais en même temps, c'est très individuel. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à notre propre vie et avec les personnes qui ont participé à ce souvenir, le lieu où est-ce que ça s'est passé, le temps, combien de temps ça a duré. Tout ça, c'est vraiment très précis et c'est vraiment exploitable. C'est-à-dire que si on regarde la Madeleine de Proust de Marcel, c'est un peu soudain, c'est-à-dire il s'y attend pas et tout d'un coup ça déclenche. Alors ça nous arrive effectivement, on passe devant un magasin où on est dans la nature et il y a une odeur qui nous déclenche un souvenir. Mais on peut aussi prêter attention aux odeurs et ça peut être aussi reprendre un petit peu de façon consciente et attentionnelle ces mémoires olfactives et nous enrichir finalement de notre expérience olfactive au quotidien. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très positif. On le voit dans les ateliers de stimulation olfactive que l'on fait avec l'association Culture et Hôpital en gériatrie. Donc, c'est très, très positif pour les personnes âgées, très âgées, voire atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a vraiment quelque chose à exploiter dans le sens olfactif qui est assez fascinant.
Alors, Ira Gurden, dans Sentir, ce livre passionnant paru aux éditions Les Arènes, vous évoquez aussi quelque chose qui est une évidence, mais qu'on oublie, c'est qu'on a tous notre propre odeur. Et vous évoquez de quoi elle est constituée, cette odeur, sa complexité, et c'est absolument fascinant de voir comment on n'y pense jamais, quasiment. On se met un coup de déo, un coup de parfum, et puis voilà, mais notre corps est fourmi d'odeurs. Et ces odeurs, elles ont de multiples intérêts et elles interviennent, entre autres, vous l'évoquiez dans la relation mère-enfant avec les tout-petits, elles interviennent dans le domaine de la sensualité également et c'est un composant primordial de nos vies.
Oui, malheureusement, on y pense parce qu'on se dit attention, il faut pas que je sente la transpiration, il faut pas que je sente la sueur parce que c'est extrêmement négatif socialement de sentir la sueur. Ce qui est vrai, c'est une construction sociale qui nous caractérise, donc on fait hyper attention à cela. Mais si on va voir de plus près effectivement de quoi sont faites ces odeurs corporelles, effectivement, elles évoluent avec la vie parce que elles sont liées en fait à notre métabolisme, c'est-à-dire que toutes nos cellules consomment de l'énergie, fabrique des petites briques qu'on appelle des protéines. Et dans tous ces processus-là, en fait, il y a des molécules odorantes qui sont dégagées, qui vont circuler dans notre corps, qui vont arriver au niveau de la peau et qui vont être libérées par des glandes qui sont faites pour ça, et notamment au niveau des pilosités. Donc, notamment sous les bras, par exemple, là, il y a une forte libération. Et il se trouve que à l'adolescence, dans la chambre de nos chers adolescents, on sait ça, les fortes hormones sexuelles vont développer cette pilosité-là. Voilà, et donc là, avec les hormones sexuelles qui vont être aussi développées, qui vont donc être dégradées par l'organisme et libérées toujours au même endroit, on voit qu'il y a un cocktail corporel qui va être très complexe et qui va être même encore plus complexe parce qu'il y a des bactéries qui se trouvent sur notre peau, une population de bactéries qui nous appartient d'ailleurs, qui nous est spécifique, on a notre propre signature bactérienne, et ces bactéries, elles vont encore ajouter de la complexité à ces odeurs corporelles en dégradant ces molécules qui sont déjà issues de la dégradation métabolique de plein de molécules différentes. Et donc, on voit ce bouquet corporel qui s'installe, très intense au niveau de l'adolescence, et puis qui va s'atténuer, heureusement, un peu avec l'âge. Et donc, ces odeurs corporelles, elles vont porter plein d'informations, notamment des informations qui vont donner une carte génétique de la personne, parce que on sait aussi que dans les molécules qui sont dégradées, il y a des informations immunitaires, et on sait que tous les mammifères, y compris chez l'être humain, on va être sensible en fait à des signaux génétiques pour justement éviter la consanguinité, ne pas avoir en fait une reproduction entre deux personnes qui soient génétiquement trop proches, parce que si on fait ça, on diminue la force immunitaire et la survie de l'espèce. Donc du coup, ça existe aussi chez l'être humain. Et puis par-dessus tout ça, bien sûr, on va mettre des parfums, parce que les parfums, dès l'adolescence, ça devient intéressant. Et donc finalement, le parfum vient sur un cocktail corporel qui est déjà très complexe, et c'est pas du tout évident de trouver son parfum préféré, parce qu'il faut qu'on l'associe avec nos odeurs corporelles. Et donc d'où cette fascination aussi par rapport au parfum et à nos parfums préférés, parce que c'est vraiment très très en adéquation avec nos propres odeurs corporelles, et il n'y a que nous qui pouvons savoir quel parfum nous sied. Et c'est ça aussi le problème d'offrir un parfum à quelqu'un, parce que nous, on ne connaît pas bien ses odeurs corporelles, alors qu'elle, elle les connaît, même si c'est de façon inconsciente et qu'elle ne peut pas forcément vous les décrire, mais elle les connaît très très bien, parce que dès qu'elle a un changement de cette odeur corporelle, notamment dès qu'il y a un peu de transpiration et de la sueur, elle sait très bien que ses odeurs corporelles ont changé. Donc du coup, pour le parfum, c'est pareil. Comment associer un parfum avec ses odeurs corporelles? Il n'y a que la personne qui le sache.
Oui, et encore, ça varie en fonction hiver, été. On n'a pas forcément les mêmes parfums suivant les saisons, suivant l'humeur aussi. J'aimerais bien, Ira Gurden, qu'on évoque la question des phéromones, parce que c'est une vraie question. Les phéromones existent dans la nature, pour les insectes, pour les animaux. Et la question de l'existence des phéromones chez l'être humain a toujours fait débat, parce qu'on sait que, bon, sans se lancer dans des détails anatomiques, l'organe qui sert à percevoir les phéromones va involuer très rapidement après la naissance. Donc, qu'en est-il des phéromones chez l'être humain ?
Alors, si on prend la définition exacte de phéromone, qui date des années 30, 1930, donc c'est assez récent, donc ça a été d'abord caractérisé effectivement chez les insectes. Les phéromones, c'est comme si c'était des hormones volatiles, c'est-à-dire des hormones étant des signaux qui vont produire, en fait, chez la même espèce, donc ça ne diffuse pas en dehors d'une espèce donnée. Dans une même espèce, entre deux individus, il va y avoir un signal extrêmement puissant qui va faire que le récepteur, celui qui reçoit ce signal chimique, il va avoir un comportement automatique et stéréotypé. C'est-à-dire que dès que ce signal existe, il va faire un comportement et il va perdre le contrôle de son corps, si vous voulez. Et il a même pas besoin que celui qui émet le signal soit là. C'est-à-dire qu'on l'a très bien vu, par exemple, avec des papillons. C'est la première espèce d'insecte où on a démontré l'existence de la phéromone. Un papillon mâle qui reçoit une phéromone femelle d'accouplement, de reproduction, se met tout de suite en position d'accouplement et de copulation n'a absolument pas besoin de voir la femelle. D'ailleurs, on peut très très facilement les tromper. Et il y a d'ailleurs des ingénieurs de l'INRAE, de notre Institut National de la Recherche Agronomique, qui travaillent en fait sur ces phéromones-là pour pouvoir attirer des insectes qui seraient phytophages nuisibles pour certaines cultures. Donc on voit que les insectes sont totalement dépendants de ces signaux-là, que ce soit les fourmis, les abeilles, etc. etc. Chez l'être humain, vous l'avez très bien dit, probablement que donc dans ces premiers mois où le bébé est très très olfactif, il peut y avoir une composante phéromonale. Donc on a détecté un bouquet d'odeurs phéromonales autour du mamelon qui guide finalement le tout petit vers le sein, vers sa source de nourriture qui est le lait maternel. Et puis après, en fait, on n'a plus du tout de démonstration scientifique solide sur l'existence de phéromones chez l'être humain adulte. Parce qu'on n'a plus les récepteurs aux phéromones que les autres espèces animales ont. On n'a pas l'organe dont vous avez parlé, qui s'appelle l'organe de Jacobson. Donc, on est complètement démunis, en fait, pour pouvoir les détecter. Et surtout, notre comportement est extrêmement complexe et on ne connaît pas, en fait, de comportement automatique et stéréotypé chez l'être humain en réponse à une stimulation donnée. Donc du coup, tout ça converge vers le fait que pour l'instant, à l'état actuel des recherches, on n'a pas identifié de phéromones chez l'être humain adulte.
sert-il tout cela? Si ce n'est le parfum des roses, le goût léger des choses qui ne durent pas. Les armées traversant le monde et les enfants déracinés, l'herbe qui pousse sur les tombes oubliées. Que reste-t-il de tout cela? Si ce n'est le parfum des roses, le goût léger des choses qui ne durent pas. Les innocents que l'on et la justice qu'on apprend, les rires des enfants qui s'usent sur le temps. Que reste-t-il de tout cela?
Intéressant, c'est que vous évoquez quand même le fait que certaines substances peuvent déclencher certains comportements. Alors, c'est lié au complexe majeur d'histocompatibilité qu'on évoquait tout à l'heure, qui détermine inconsciemment nos choix, peut-être. Mais ce qui est intéressant, Irak, c'est de voir que on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous le même comportement, on n'est pas tous égaux par rapport aux odeurs. Alors, il y a plein d'exemples dans le livre, ça va depuis la perception de la coriandre jusqu'à aux odeurs corporelles qui peuvent être perçues par certains ou pas par d'autres. Il y a aussi les influences culturelles, le fait que nous, on ne supporte pas l'odeur du durian. Enfin, on est tous différents d'une certaine manière, on est modelés par plein de choses, en fait.
Oui, je pense que nos auditeurs ont dû comprendre depuis le début de notre entretien qu'il y a deux fusées, deux étages à la fusée olfactive. Il y a le nez et il y a le cerveau, évidemment, mais il y a aussi les deux étages qui sont dans la perception à la fois individuelle et culturelle. Donc, tout cela va se mélanger. Au niveau du nez, effectivement, on a un répertoire de gènes et de récepteurs olfactifs qui peut être plus ou moins riche, c'est-à-dire que je mets le chiffre, comme tous les scientifiques, autour de 400, mais ça varie de 350 à 400, et notamment pour la coriandre, il y a une surexpression expression d'un certain type de récepteur qui fait que certaines personnes ne supportent pas du tout l'odeur de coriandre, mais il existe d'autres types de molécules comme l'androsténone, qui est une hormone en fait mâle. Celle-là, en fait, il y a un trou dans la raquette chez certaines personnes et le récepteur et quelques récepteurs qui détectent cette molécule n'existent pas, donc les personnes ne détectent pas cette molécule. Donc il y a quand même effectivement une richesse, heureusement aussi une variabilité dans la population. On appelle aussi de type génétique, hein, c'est un polymorphisme génétique et ça existe dans plein de systèmes, c'est pas spécifique à l'olfaction, mais ça existe aussi dans l'olfaction. Et ensuite, il y a toute la richesse de la vie de l'individu, de qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a eu comme comme odeur autour de son environnement, notamment dans nos cuisines, parce que c'est là où on a les fortes sources d'odeurs. Et puis les parents, comment les parents ont élevé aussi leur enfant dans la curiosité olfactive, dans la nature, on y revient encore, les balades en forêt, les balades à la mer, à la campagne, même dans des parcs en ville, hein, ça suffit. Il suffit qu'il y ait un magnolia dans un parc à Paris, il faut en profiter pour voilà, se sentir le printemps qui va naître, parce que c'est partie d'un des premiers arbres qui fleurissent, etc., etc. Donc, c'est un melting pot, en fait, un melting pot sensoriel extrêmement intéressant, l'odorat, et il faut y consacrer du temps et un petit peu d'effort et d'attention pour en profiter pleinement.
Alors, j'avais une question par rapport à ça, c'est qu'on voit qu'il y a donc une part d'inné avec le patrimoine génétique, une part d'acquis avec le côté culturel, et vous évoquez aussi, Ira Gurden, le fait que ces neurones olfactifs se régénèrent régulièrement et sont remplacés régulièrement jusqu'à un appauvrissement et ça diminue avec l'âge et donc le sujet âgé a tendance à moins percevoir les odeurs. Mais j'avais une question de savoir si ces récepteurs n'étant plus stimulés ou pas stimulés par tel ou tel composé chimique, est-ce que du coup leur nombre diminue, voire disparaît ? Est-ce qu'il y a une carte en fonction des stimulations qu'on peut recevoir ?
Alors oui, la carte, elle peut être dépendante des stimulations que l'on reçoit, mais les récepteurs qui ne sont pas stimulés ne vont pas disparaître. C'est-à-dire D'accord. qu'ils vont toujours être là en espèce de gardien du temple, donc ils vont être toujours là en nombre minime pour pouvoir, au cas où, détecter D'accord. en fait certaines molécules odorantes et certaines parties de molécules odorantes, des fonctions chimiques de ces molécules. Et donc la panoplie effectivement va varier en quantité. Il va y avoir certains récepteurs qui vont être effectivement plus exprimés si on est beaucoup stimulé par tel type d'odeur, mais en fait le panel va quand même exister dans son ensemble. Et dès que il va y avoir une stimulation d'un panel qui est peut-être un peu mineur de récepteurs, d'une famille de récepteurs mineurs parce que on n'a pas été stimulé pendant un certain temps, il va y avoir comme un rééquilibrage finalement, et c'est extrêmement modulable et extrêmement plastique. Il y a ce terme qui est pas très joli en biologie qui s'appelle la plasticité, c'est-à-dire la modulation par rapport à ce qui se passe autour de nous, une adaptation de notre système biologique à notre environnement, et ça c'est très très fortement présent dans le système olfactif.
Bah merci en tout cas de cette réponse. Ça m'amène à parler du goût, parce que vous évoquez le fait de manger, la flaveur, et le fait que souvent, on se rend compte quand on est enrhumé ou quand on a eu le Covid, qu'on perd le goût. On sent quelques saveurs, mais pas le bouquet habituel. Et vous venez dans ce livre expliquer également les mécanismes du goût qui sont à la fois liés aux récepteurs qui sont sur la langue, qui est lié aussi à l'odorat et qui est lié au système du trijumeau qui lui capte tout ce qui est information, le pétillant, le chaud, le froid, le piquant et autres. Donc moi j'ai été particulièrement touchée de voir que vous développiez les différentes composantes de ce goût qu'on a tendance à laisser de côté, parce que c'est vrai qu'on parle rarement du système trigéminal.
Oui, parce qu'on a aussi un petit problème de vocabulaire en français où on pense que le goût, ce n'est que la langue. Ouais. Par exemple, en anglais, taste et flavor, ce n'est pas la même chose. Taste, c'est vraiment la gustation. On devrait dire gustation en français. Et flavor, c'est la flaveur. Et donc, c'est un mot qu'on a importé de l'anglais pour dire que la flaveur, c'est la triple composante chimique, c'est-à-dire à la fois la gustation, les cinq saveurs, je vais y revenir, l'olfaction, on a vu, hein, les 400 types de récepteurs différents, et aussi le trigéminal, comme vous l'avez très bien dit, avec les différentes sensations plutôt tactiles, thermiques, ou même de savoir la rugosité de l'aliment qu'on a en bouche. Alors, donc ces trois composantes-là sur la gustation, c'est très intéressant. On a quand même les cinq saveurs qui sont présentes, donc qui, qu'elles soient d'ordre acide, amer, sucré, salé ou même umami, qui est le glutamate qu'on trouve beaucoup dans les sauces asiatiques, par exemple.
Et vous évoquez donc, le gras. Et vous évoquez la possibilité que le gras intègre maintenant.
Exactement. Donc, il y a ces cinq saveurs de base extrêmement bien démontrées. Et puis, Cocorico, en France, on a aussi trouvé deux types de récepteurs gustatifs qui détectent aussi le gras. Ça, ce sont des travaux de Dijon, de l'INRAE. Et donc, je pense que bientôt, on aura accepté au niveau consensuel, au niveau scientifique, parce qu'on aime être en groupe d'accord. On aura aussi les récepteurs du gras qui sont très, très importants. Donc, on a ce répertoire. Et puis, là-dessus va venir effectivement deux sens olfactif, parce que pour l'instant, on n'a parlé que du sens direct, c'est-à-dire des molécules odorantes qui rentrent avec la respiration dans le nez et on détecte la rose. Or, il se trouve que quand on mâche un aliment dans la bouche, on libère aussi des molécules odorantes qui vont passer par l'arrière-bouche. Là, on va appeler ce système-là la rétro-olfaction. Et il y a un petit trou à l'arrière-bouche qui fait que la bouche communique avec le nez. Et donc, ces molécules odorantes vont remonter de la bouche vers le nez. Et là, on va avoir vraiment l'ensemble des molécules odorantes qui caractérisent cet aliment. Alors, dans un premier temps, on avait la tête dans la casserole, on n'a pas encore goûté. Donc là, on a les odeurs qui rentrent par le nez et on connaît ce qui se passe dans la casserole. Et puis après, quand on goûte, quand on met dans la bouche, là, effectivement, on a les cinq saveurs plus cette rétro-olfaction qui remonte dans le nez. Et donc, et en même temps, on a cette sensibilité trigéminale. Le trigéminal, en fait, c'est un nerf crânien. Et il y a des terminaisons de ces nerfs-là dans les yeux, dans le nez et dans la bouche. Et donc, par exemple, quand on coupe un oignon, on va pleurer. Ça, c'est une réaction trigéminale. Quand on va manger un piment, on va sentir le chaud dans la bouche. C'est une réaction trigéminale. Quand on boit une eau gazeuse, on sent les petites bulles de gaz carbonique. C'est une réaction trigéminale. Donc, on voit que le trigéminal, par cet aspect très somatique, très du toucher, en fait, dans le visage, va rajouter encore des informations sur l'aliment. Et donc, on va avoir les trois sens chimiques qui vont être sollicités. Et pour le cerveau, en fait, ça va être intégré. C'est-à-dire que la flaveur, c'est vraiment une composition intégrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau aime faire des images qui soient cohérentes et bien construites. Eh ben, elle va prendre les trois informations et les mettre vraiment ensemble pour dire, ça caractérise la flaveur de l'œuf qui n'est pas la même flaveur que la tomate. Et donc, du coup, on va pouvoir comme ça faire une bibliothèque de flaveurs extrêmement bien construite. Et bien sûr, dessus, on va rajouter des informations visuelles, la tomate est rouge, l'œuf est blanc, et des informations même auditives, c'est-à-dire dans la bouche, quand on mâche, on a des bruits différents, si c'est un chips ou si c'est un popcorn, par exemple. Donc, du coup, voilà, des informations autour de tout ce qui est alimentaire sont extrêmement précieuses et très bien traitées par le cerveau, parce que après, ça va aller dans notre système digestif et on n'est pas là pour ingérer n'importe quoi, parce que il y a toujours cette question de la toxicité. Et d'ailleurs, justement, l'odorat est hyper important pour détecter une potentielle toxicité de l'aliment ingéré. Et on a vu pendant le Covid, malheureusement, des personnes qui ont perdu l'odorat et qui se sont trouvées aux urgences pour intoxication alimentaire. C'est-à-dire qu'elles ont mangé, en fait, des aliments qui sentaient très mauvais. Mais comme elles avaient perdu l'odorat, c'était pas les cinq saveurs qui pouvaient leur dire, en fait, qu'il y avait un problème avec l'aliment et que cet aliment avarié, malheureusement, elles l'ont ingéré, et donc d'où l'intoxication. Donc il y a toujours ces éléments de sécurité dans les 5 S dont on a parlé, santé, sécurité, dépendant de l'odorat.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien. Le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins
qui vont à kermesse, comme vont à messe, vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous, y a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en Skol. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam. C'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut.
Oui, alors ça tombe bien, Irak Gurden, parce que je voulais vous emmener un petit peu sur la question du normal et du pathologique, parce que dans l'odorat, il y a aussi cette composante-là. Alors on vient de le voir en termes de sécurité alimentaire, de sécurité tout court, parce qu'une odeur de brûlé aussi, ça nous renseigne sur ce qui se passe dans notre environnement. Par rapport toujours au côté pathologique, on évoquait le Covid, qui a privé les gens de leur odorat, et avec toutes les conséquences que ça a pu avoir, qui pouvaient être très importantes quand ils étaient œnologues ou ce type de profession. Et puis les odeurs, et ben c'est aussi maintenant un. Alors, petite parenthèse, vous nous expliquez, et ça, moi, je l'ai découvert, que ces récepteurs, il y en avait partout dans le corps et pas uniquement dans la muqueuse nasale, ce qui est intéressant. Et on met en place des systèmes de repérage des cellules cancéreuses ou de certaines pathologies, justement avec des chiens renifleurs, avec des animaux renifleurs, avec des faux nez, entre guillemets, qui permettent de détecter. Donc, pour tout ce qui est question de la pathologie, l'odorat, c'est quelque chose qui a tout à fait sa place, et il y a un chapitre passionnant là-dessus dans votre livre.
Oui, en fait, on a parlé tout à l'heure ensemble de la complexité des odeurs corporelles. Or, il se trouve que ces odeurs-là vont changer quand il y a des pathologies. Alors, la pathologie est très caractérisée par une odeur précise qui est connue depuis très très longtemps. C'est le diabète, effectivement, avec dans la laine des personnes diabétiques, au bout d'un certain temps, voilà, cette odeur d'acétone qui ressemble à de la pomme. Donc ça, c'était décrit depuis très 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 longtemps. Et donc, c'est vraiment caractéristique de ce qui va changer, en fait, dans l'organisme quand une pathologie s'installe. Et donc avec les cellules cancéreuses et certains cancers, le cancer du sein, de la vessie, des poumons, etc., il va y avoir aussi des molécules odorantes supplémentaires qui vont être ajoutées par le métabolisme des cellules cancéreuses, qui n'est pas le même métabolisme que les cellules normales du corps. Et en fait, ces molécules-là peuvent nous donner en fait un renseignement, une information très utile, voire même très précoce de l'arrivée de cette maladie. Donc, il y a plusieurs moyens pour détecter ces molécules odorantes, on va dire pathologiques, qui changent la signature corporelle qui est physiologique, qui devient pathologique maintenant, qui est relevant en fait d'une maladie. Donc, il y a effectivement des chiens renifleurs qui sont formés, par exemple, à l'Institut Curie, qui vont être vraiment formés pendant plusieurs mois à reconnaître des signatures chimiques très précises. Et puis, de plus en plus, que ce soit en Israël ou en France, il y a des entreprises, des biotech très performantes qui ont déjà mis au point des nez électroniques. Donc, c'est en fait, ces nez électroniques font la même chose que les chiens, mais ils vont détecter au niveau moléculaire, finalement, des signatures très très précises de certaines pathologies pour dire là, attention, il y a peut-être un risque, donc il faut analyser plus en avant, plus en détail le cas de cette personne-là. Et il y a aussi au niveau olfactif, alors de l'autre côté du miroir, une perte de l'olfaction. Donc là on n'est plus dans l'odeur corporelle, mais on est dans la capacité olfactive. Et on sait que très tôt dans les pathologies neurodégénératives de type Parkinson ou Alzheimer, il y a aussi une perte des capacités olfactives. Et en clinique, en fait, il y a de plus en plus de travaux pour dire on devrait mettre en fait ces tests olfactifs dans la panoplie en fait des signes cliniques qui vont peut-être prédire effectivement l'arrivée d'une pathologie aussi grave que la maladie d'Alzheimer. Donc on voit que ce soit au niveau des odeurs corporelles ou alors des capacités olfactives, il y a effectivement des informations très importantes à pouvoir exploiter dans le milieu clinique et biomédical.
Alors il y a un autre domaine qui moi m'intéresse aussi parce que c'est quand même un enjeu majeur de santé publique, c'est la question de l'obésité. Et on découvre en lisant Sentir, Irak Gurden, ce livre paru aux éditions Les Arènes, qu'il y a toute la perception des odeurs et le déclenchement de la phase céphalique de sécrétion d'insuline et les mécanismes de régulation de la leptine et de la gréline qui sont aussi en rapport avec l'odorat.
Oui, alors ça c'est vraiment une très forte particularité du système olfactif, c'est sa connexion, c'est ses connexions en pluriel, avec tout le reste du corps. Parce que en neurosciences, on a un peu encore tendance à regarder que le cerveau. Or, nous, dans notre laboratoire, on travaille sur des voies qu'on appelle des voies neurométaboliques, c'est-à-dire dans la connexion entre les systèmes neuronaux et aussi tout ce qui se passe en périphérie, notamment au niveau du pancréas, avec la libération d'insuline qui va réguler la glycémie, donc cette glycémie qui est perdue, par exemple, chez les personnes diabétiques. Les personnes diabétiques, dans la majorité, étant de type 2, c'est-à-dire de façon conséquente à une obésité et donc à une perte de la sensibilité à l'insuline. Et donc, du coup, cette très forte connexion entre le système olfactif et le reste de tous nos organes, en fait, nous l'avons caractérisée dans une phase, comme vous l'avez dit, céphalique, c'est-à-dire avant de manger à jeun, nous sommes très sensibles aux odeurs alimentaires. Par exemple, nos auditeurs, ils font la queue tous les midis pour aller manger à la cantine. Ils ne voient pas les aliments qui sont servis et pourtant, ils savent quels aliments vont être servis par les odeurs. Et ça provoque déjà des réactions métaboliques dans leur corps, dans nos corps, parce que nous aussi, on fait ça. Et en fait, on a une préparation métabolique en fait de notre corps et notamment une petite augmentation, pas énorme, mais très significative d'insuline qui va préparer finalement le corps au shoot. Nous, on appelle ça le shoot de glucose qui va arriver. Et donc, du coup, le corps se prépare. On a vu, nous, dans des modèles d'obésité chez la souris qui sont très étudiés à travers le monde et en France aussi, que cette phase céphalique, donc dépendante des odeurs alimentaires et qui régule l'insulinémie, n'existait pas chez les souris obèses. Donc là, on est en train de construire un protocole clinique pour voir si chez les personnes obèses, il y a effectivement chez l'humain une perte de cette sensibilité olfactive et métabolique qui se construit avant même la prise alimentaire. Donc ça, c'est une question qui est assez fascinante, qui est toute nouvelle et ça fait aussi appel à des problèmes qui existent chez les personnes obèses qui vont aussi perdre leur sens de l'odorat petit à petit et donc perdre aussi ce lien olfactif extrêmement important de plaisir, d'intérêt, d'attention à l'aliment. Et donc on voit que chez les personnes obèses et diabétiques, cette question de l'odorat, qui en est un peu au début en fait, va de plus en plus être étudiée par les chercheurs.
À suivre.
Tout à fait. C'est la recherche, ça. Ouais.
C'est passionnant.
Et on essaye effectivement d'apporter des réponses à ces pathologies extrêmement importantes et qui se développent en nombre. C'est une catastrophe, notamment chez les plus jeunes. Donc, du coup, il faut vraiment faire de feu de tout bois et analyser vraiment l'ensemble du comportement alimentaire et notamment ce comportement alimentaire dépendant de nos sens et de notre sens olfactif. Nous, on est vraiment sur ce créneau d'essayer de détailler, de décrire, d'étudier le plus possible ce sens olfactif qui est tellement important pour cette connexion aux aliments et ce plaisir à manger. Donc, nous, c'est vraiment nos études actuelles au laboratoire, c'est vraiment sur ce sujet-là.
Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Ombre, mon royaume, je retrouverai les anciens arômes et les noirs portraits, les enfants qui dorment, les fauteuils boiteux, les ombres difformes, la trace des jeux. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. C'était moi peut-être, ou peut-être vous, les yeux des fenêtres sont vides et fous. Dans les mois de paille, il fait doux guetter, le cri court des cailles, divisant l'été. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Le vent se repose au bord bleu du temps, les ronds gris roses marchent sur l'étang. Il me semble entendre un train loin d'ici, dans les osiers tendres, le jour est assis. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. La fin d'août paraisse et les arbres font de lentes caresses au plafond profond, mémoire qui meurt, photos effacées, rumeurs, des choses passées. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers.
Et puis parfois, il y a aussi toutes les pertes d'olfaction qu'on évoquait, où vous évoquez, et ça c'est une question qui m'a été posée par un ami qui est ORL, qui est la question des fantosmies, c'est-à-dire les odeurs fantômes que l'on perçoit parfois. Et sa question était, pourquoi dans ces odeurs fantômes, c'est la plupart du temps des odeurs désagréables qui apparaissent?
Oui. Alors, dans les troubles olfactifs, alors ça concerne quand même 15% de la population française, c'est pratiquement énorme, ouais. 10 millions de personnes. Il y a beaucoup de pertes quantitatives. C'est des personnes qui vont être soit anosmiques, donc perte totale ou hyposmique, une diminution de leur sensibilité. Et puis, il y a aussi des pertes qualitatives. Donc là, la fantosmie, ça se range dans la qualité même de notre rapport aux odeurs. Et la fantosmie, c'est vraiment... Je comprends très bien la question de votre collègue ORL, parce qu'on s'intéresse, nous tous, neuroscientifiques et ORL, à cette question qui est fascinante, qui est une espèce d'acouphène olfactif, c'est-à-dire les personnes qui ont des acouphènes, eh ben, elles n'entendent pas de son, c'est juste une création qui se fait au niveau de leur système nerveux. Et là aussi, chez les fantosmiques, il y a la détection et la perception d'une odeur désagréable, alors que ça ne sent absolument rien dans la pièce dans laquelle elle se trouve ou à l'extérieur. Et effectivement, nous... Alors, en neurosciences, on pense que c'est une espèce de mini-hallucination olfactive où il va y avoir un déclenchement de la perception d'une odeur par le cerveau lui-même. Et quelles sont les odeurs les plus puissamment retenues en mémoire et qui existent le plus longtemps dans le cerveau? Ce sont les odeurs et surtout les odeurs désagréables. Et donc, du coup, on pense que ça réactive des circuits neuronaux qui sont liés en fait à ces odeurs désagréables. Et très clairement, comme pour les acouphènes, on n'en est qu'au début et on n'a pas vraiment d'idée de pourquoi ça déclenche en fait cette perception qui ne devrait pas être là, puisqu'il n'y a pas d'entrée sensorielle, il n'y a pas de stimulation sensorielle. Donc on peut aussi se demander s'il y a eu des traumas dans le passé de la personne, parce que c'est souvent lié aussi, on l'a dit, aux émotions, et donc des très fortes émotions peuvent déclencher des fantosmies. Donc peut-être aussi voir au niveau psychologique s'il y a eu des choses qui ont été peut-être un petit peu cachées dans la vie de la personne, et donc ces traumas-là ne vont pas affecter que la fantosmie, mais ça peut être un signe révélateur d'un problème qui a toujours existé. Alors c'est peut-être pas le cas, hein, ça fait partie des potentielles causes que l'on peut identifier, mais je suis d'accord avec votre ami Red, c'est extrêmement compliqué à expliquer.
On découvrira plein de choses en lisant « Sentir comment les odeurs agissent sur notre cerveau ». C'est paru aux éditions Les Arènes, c'est Irak Gurden qui en est l'auteur et qui je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien assez long sur votre emploi du temps. C'était un vrai bonheur. Moi, j'aimerais juste terminer par les quelques petites références que vous évoquez dans ce livre. Irak Gurden, ça va de Murakami à Nietzsche, j'allais dire c'est la guerre entre Nietzsche et Freud, et Murakami vient j'allais dire pacifier le débat.
Oui, Alexandrine, en fait, chez tous les intellectuels, les écrivains, les philosophes, les psychanalystes, il y a en fait cette question de parfois même obsédante de l'importance des odeurs. Alors ça peut être vu de façon assez négative et animale comme Freud le pensait, mais ça peut être aussi vu de façon extrêmement positive et très très hédonique et dans le plaisir qu'était cet esthète Nietzsche. Et donc finalement, dans tous ces écrits, on voit en fait que les odeurs et l'odorat sont présents, que ce soit dans les poèmes de Baudelaire ou les textes de Hugo ou de Zola qui décrit Paris du 19e siècle, dans le ventre de Paris, dans les Halles, il y a toujours en fait ces scènes qui reviennent en fait dans ces livres et dans ces poèmes, ce qui montre aussi cette importance olfactive à nouveau, qui a un sens majeur, qui influence même très fortement l'art. Et l'art ultime finalement olfactif, ce sont les parfums qui ont survécu à travers les siècles, hein. Ça a démarré 1500 ans avant Jésus-Christ, les premières traces dans l'Égypte antique, et puis c'est toujours là, présent chez nous, et nous avons encore ces parfums qui ont vraiment, vraiment accompagné l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a cette importance vraiment primordiale du plaisir que nous prenons avec les odeurs. On a parlé des odeurs naturelles, mais aussi des odeurs que nous fabriquons nous-mêmes dans nos cuisines, ou alors en diffusant des odeurs essentielles. Donc le bonheur est dans les odeurs et dans notre odorat, donc profitons-en, et je pense que ça ne fera que du bien à nos qualités de vie de pleinement apprécier les odeurs.
Merci pour cette belle conclusion, ce d'autant plus que les odeurs, ça ne se conserve pas. On peut garder des images avec les photos, on peut garder, enregistrer les voix, les sons, mais les odeurs sont volatiles et c'est pour ça aussi peut-être qu'elles imprègnent si fortement notre mémoire. Merci beaucoup Irak Gurden pour cet entretien. Ça s'appelle « Sentir, comment les odeurs agissent sur notre cerveau ». C'est paru aux éditions Les Arènes et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça une prochaine fois.
Avec grand plaisir, merci, au revoir. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et Débats qui arrive à sa fin. Nous avons parlé aujourd'hui de sentir comment les odeurs agissent sur notre cerveau, ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes, et son auteur que nous avons donc entendu longuement, c'est Irak Gurden. Alors je vous recommande de découvrir cet ouvrage qui est vraiment absolument passionnant. Et bien sûr, aussi, restez à l'écoute de Radio Libertaire. À bientôt, portez-vous bien.
Dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une sorte de cerveau disponible par de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire, je vais piquer le greffe comme on pique une colère, plus têtu que tous les vieils hommes et la mère.
pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Slogans qui veulent la vérité télévisée et des seigneurs dans l'ascenseur qui méprisent la pauvreté. Et c'est la République de la Révolution qui jette ses enfants dans la rue de l'oubli. C'est la honte publique au cœur de la nation. La danse de l'argent dans la rue du profit. Il y a des gueules d'ailleurs dans les cavernes des bistrots qui parlent à des sourds-muets au visage glacé d'ennui. De pauvres corps fragiles peuvent se cognent dans les couloirs chauds allant venant entre les quais cherchant des perles dans la nuit. Et c'est la République de la Révolution qui jette ses enfants dans la rue de l'oubli. C'est la honte publique au cœur de la nation. La danse de l'argent dans la rue du profit. La danse de l'argent dans la rue du profit.
Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur.
Je me suis planqué comme un renard, train d'atterrissage d'un avion, dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur.
Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé,
au fond des corridors,
travailler noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice. C'est à fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si Jacques Delors c'est l'Afrique, vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. Faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à
la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors.
Jusqu'à la mort, clandestin,
traqué par la police,
silencieux, au bord du précipice.
Je sais où la trouver, elle sait où me. Toujours employée à réduire les écarts. Quand on l'approche, enfin, aussi près qu'on aille, on ne possède rien.